Chers amis, la dernière fois, j'ai beaucoup insisté sur la grandeur de l'homme et sur sa vocation à devenir fils de Dieu dans le Fils Jésus-Christ, et ceci par la grâce du Saint-Esprit. Le Père, en effet, qui nous aime tant, a un grand désir de partager sa vie avec nous. Par le don qu'il nous fait de lui-même, il veut nous attirer à lui et nous unir à lui dans l'amour, de telle sorte que nous soyons rendus participants de sa nature divine et que nous puissions vivre de sa vie. Cette anthropologie chrétienne, cette façon d'appréhender l'homme qui est la nôtre, nous la voyons exprimée dans l'Évangile selon saint Luc à propos de Jésus. Après être resté à Jérusalem à l'insu de ses parents, il redescend à Nazareth. Or, que nous est-il dit de Jésus? Eh bien qu'il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, Jésus grandit dans toutes les dimensions de son humanité. D'abord dans sa dimension corporelle, il grandit en taille, mais aussi dans son intelligence et sa volonté, puisqu'il grandit en sagesse. Et enfin, il grandit dans la dimension surnaturelle de la grâce divine. Si nous ne gardons pas ces trois dimensions, eh bien nous amputons l'homme de la plénitude de son humanité. Un être qui ne serait que corps et intelligence serait un être spirituellement rachitique, limité, un être qui ne déploierait pas tous les germes de vie nouvelle que Dieu a déposés en son cœur. Aujourd'hui, malheureusement, dans un monde marqué par l'athéisme, par le refus de Dieu et de la vie de la grâce, l'anthropologie même est faussée, notre vision de l'homme est rabougrie. Nous avons perdu la dimension de la grâce, et les conséquences d'une telle perte sont incommensurables. Vous imaginez un peu, l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu, l'homme créé par Dieu et pour Dieu, est désormais coupé de l'infini, enfermé dans les limites de son humanité, sans plus pouvoir espérer la divinisation à laquelle il était pourtant appelé par grâce. L'homme ne se reçoit plus comme un don de Dieu, et il a aussi perdu la perspective qu'il était appelé à devenir lui-même don pour les autres. Comment alors la désespérance n'envahirait-elle pas son cœur? Lui qui était fait pour Dieu, il se retrouve sans Dieu, et le sens même de sa vie lui échappe. Nous voyons les ravages de cette perte aujourd'hui, où les paradis artificiels de la drogue tente de combler le vide intérieur, où les rêves fous des transhumanistes cherchent à pallier l'absence de la grâce par la technoscience pour essayer de devenir comme des dieux, mais sans la grâce de Dieu. Cependant, cela est un leurre, une illusion qui n'amènera que plus de désolation intérieure. Dans la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, au numéro 22, nous pouvons lire ceci. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Autrement dit, qui veut connaître l'homme doit regarder Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Qui veut connaître quelle est la vocation humaine de tout homme doit regarder la vie du Christ. Le Verbe incarné est donc le seul fondement de toute anthropologie vraie. N'oublions pas en effet que le Christ est le second Adam, à l'image duquel le premier Adam a été façonné. Autrement dit, le modèle de l'humanité. Ce n'est pas Adam qui n'est qu'une figure, c'est bien le Verbe incarné à l'image duquel a été créé Adam. Et il s'agit de reconnaître la vocation accomplie de l'humain à la lumière de l'humanité de Jésus de Nazareth, puisqu'en lui s'est manifesté le dessein bienveillant et préétabli du Père sur les êtres humains. Saint Paul, dans le commencement de sa lettre aux Éphésiens, s'en est fait l'écho. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saint et immaculé en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. » Voyez, nous avons là la véritable anthropologie chrétienne, qui suppose que l'on reconnaisse que nous avons été voulus et créés par le Père pour devenir fils dans le Fils, et participer par le don de l'Esprit à la communion de l'amour trinitaire. Les transhumanistes, c'est-à-dire ceux qui veulent augmenter la nature humaine grâce à des artefacts techniques, grâce à une interface cerveau-machine, grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, ne se rendent pas compte que la véritable augmentation de l'humanité ne passe pas par la technique, mais par l'accueil de la grâce. Et la grâce, c'est quoi ? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous dans le Christ, comme un amour qui nous élève, nous purifie, nous transforme et conduit de fait notre vie à sa plénitude en la divinisant. Elle est là la véritable augmentation de l'humanité à laquelle nous sommes appelés. Voyez, Dieu ne nous a pas créés pour être des cyborgs, des sortes de créatures hybrides, hommes-machines, ultra-performantes, mais il nous a créés pour être des saints, élevés plus haut que nous-mêmes, par la grâce du Saint-Esprit qui habite en nous, jusqu'à nous faire vivre de sa propre vie et de la plénitude de son amour. Ce n'est pas le savoir ni l'omniscience dans une perspective gnostique, ni la toute-puissance qui nous sauvera et nous augmentera, entre guillemets, mais c'est l'amour et uniquement l'amour. Le Fils de Dieu, en s'incarnant, a non seulement assumé notre nature humaine, mais il l'a transfigurée. Il ne s'agit donc pas de chercher à aller au-delà de Jésus, qui est l'homme parfait, mais il s'agit de le rejoindre en entrant toujours plus profondément dans son mystère pascal. En effet, en Christ, les croyants sont transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit, nous rappelait saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Faut-il donc que nous ayons perdu de vue l'extraordinaire nouveauté apportée par le Christ pour nous laisser fasciner par une transhumanité qui viendrait soi-disant parachever en la dépassant notre humanité? Car la plénitude de notre humanité, elle est dans le Christ. Et je pense que nous ne l'avons pas encore pleinement accueillie, parce que nous n'avons pas encore pleinement accueilli l'Esprit-Saint, lui qui seul peut nous introduire dans cette nouveauté insurpassable qu'est le Christ. Saint Paul en était venu à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Il vivait de cette vie nouvelle en Christ, et cette vie nouvelle consiste en une assimilation progressive au Christ, jusqu'à avoir en nous les sentiments mêmes du Christ, la pensée du Christ, la volonté du Christ, qui n'est autre que celle du Père, et l'amour même du Christ aussi. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », nous a dit Jésus. Or le Seigneur ne commande pas des choses impossibles à la nature humaine. Donc nous sommes réellement rendus capables d'un tel amour, d'un amour divin, non pas par nos propres forces, mais par la grâce du Saint-Esprit. Pour avoir une idée de ce qu'est une humanité pleinement accomplie, il n'est que de regarder la vie des saints. Et vous remarquerez que les saints ne sont pas forcément des gens parfaits. Dieu déploie sa puissance en eux, mais il la déploie dans leur fragilité. Saint Paul avait bien compris ce mystère, quand, après avoir demandé à Dieu de lui enlever l'écharde dans la chair, qui lui rappelait sans cesse sa misère, Dieu lui avait répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Et saint Paul en avait tiré les conséquences. « C'est donc de grand cœur, dit-il, que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Oui, le Seigneur nous aime dans notre petitesse et notre fragilité, dans notre existence limitée. Pour accomplir toutes ces merveilles en nous, il attend seulement de nous la foi, la confiance et l'espérance. La sainteté, ce n'est pas la perfection ni la performance. La sainteté, c'est le déploiement de la grâce de Dieu dans une humanité certes fragile, mais tellement aimée de Dieu. On pourrait donc dire que la sainteté, c'est, oui, l'augmentation de l'humanité qui se laisse diviniser par la grâce. Mais cette augmentation ne passe pas par une transgression, par le désir orgueilleux de devenir un surhomme. Contrairement au projet du transhumanisme qui nous est présenté aujourd'hui comme l'apothéose de l'évolution humaine. Dans le transhumanisme, dans ce projet de dépasser l'homme par la technoscience, il y a une rupture anthropologique, alors que dans la sainteté, il n'y a pas de rupture. Il y a le déploiement de la vie nouvelle que nous donne le Christ et que le Père a déposé en nos cœurs par l'Esprit-Saint. C'est bien différent. Alors comment en est-on arrivé à une telle rupture aujourd'hui? Eh bien, on pourrait dire que cela a été préparé depuis longtemps. C'est comme une accumulation de confusions et de ruptures successives qui nous ont fait perdre de vue le projet initial de Dieu et l'extraordinaire grandeur de la dignité humaine appelée à la divinisation. Revenons, si vous le voulez bien, à l'origine. Quand nous ouvrons le livre de la Genèse, le premier verset nous place devant l'origine de toute chose, à savoir Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, Dieu crée à partir d'une situation de chaos qui précède la création. En effet, il nous est dit que la terre était vide et vague. Littéralement, en hébreu, c'est « tohu et bohu », c'est-à-dire le désert et le vide. À partir de ce tohu-bohu initial, où tout est confusion, désordre, Dieu va tout créer par sa parole. Et cette création est une mise en ordre. Dieu crée et ordonne le monde en séparant. Ainsi, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Puis il sépara la lumière et les ténèbres. Ensuite, il crée le ciel et le sépare de la terre. Il crée la terre et la sépare des eaux. Il crée et il sépare, non pour opposer, mais pour créer une complémentarité ordonnée. Vous savez que saint Augustin disait que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Eh bien, Dieu crée toute chose en distinguant et en mettant de l'ordre. Lumière, ténèbres, jour, nuit, terre, ciel, terre, mer. Et ainsi, Dieu crée un environnement ordonné et donc un environnement de paix pour y accueillir l'homme, sommet de la création et intendant des mystères de Dieu. Vous remarquerez aussi que Dieu crée toutes les choses et les arbres fruitiers, de même que toutes les bêtes et les animaux, chacun selon son espèce. C'est donc une manière de séparer les espèces. Il n'y a pas de mélange ni de confusion entre les espèces. Et je vous rends attentif à une distinction encore plus essentielle, à savoir celle entre les êtres vivants et l'homme. En effet, il nous est révélé qu'au sixième jour, Dieu dit « que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages. » La parole de Dieu nous dit donc que « de la terre sont produits les êtres vivants ». Or, juste après, Dieu dit « faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les bêtes sauvages, etc. » Voyez le saut qualitatif. L'homme n'est pas créé dans le prolongement des êtres vivants produits par la terre. Il est créé à l'image et ressemblance de Dieu, et non des autres êtres vivants. Même si Dieu s'est servi de la poussière du sol pour le créer, mais il lui a donné son souffle, une âme spirituelle qui l'élève au-dessus de tous les autres êtres vivants. Ainsi, sa dignité est tout autre. La parole de Dieu nous révèle bien une différence de nature et non simplement de degré entre l'homme et l'animal. Voyez, il y a là aussi une séparation, une distinction et une hiérarchisation. L'homme est le reflet de Dieu sur la terre et il reçoit mission de dominer sur les êtres vivants, non pas selon une domination tyrannique, évidemment, mais selon un dominium de sagesse qu'il partage avec Dieu. Dieu a fait de l'homme le roi de cette création, qu'il reçoit comme un don à protéger. Les distinctions ne s'arrêtent pas là. Nous voyons la création de l'homme où il nous est dit « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. » Là aussi, il y a une distinction. Non pour une opposition, encore une fois, mais pour une complémentarité dans l'amour. L'homme et la femme sont en effet appelés à devenir une seule chair. Dieu a donc créé le monde en l'ordonnant avec sagesse, à partir du chaos initial. Mais l'ennemi de Dieu, Satan, déteste cette création de Dieu, comme il déteste Dieu. Lui, ce qu'il veut, c'est déconstruire cet ordre. Il veut ramener le monde au tohu-bohu pour faire échec au projet d'amour de Dieu. Il veut ramener le monde au chaos initial pour faire émerger un monde déconstruit dont il serait le maître. Ce que Satan a en ligne de mire, c'est l'homme qu'il veut abattre, parce qu'en abattant l'homme, il abat l'image et la ressemblance de Dieu. Il veut que l'homme soit déchu de sa dignité humaine, et on le voit à l'œuvre dans tant de révolutions comme celui qui détruit les ordres naturels pour semer la confusion, l'anarchie, comme celui aussi qui pousse à toutes les transgressions pour briser l'humanité en l'homme. Jésus nous a avertis que le démon était menteur et homicide depuis le commencement. Donc, ses projets sont des projets de destruction et de mort. On peut dire que jusqu'à la Révolution française, l'homme imprégné des valeurs chrétiennes et d'une anthropologie chrétienne se percevait comme fils de Dieu, créé à l'image et ressemblance de Dieu. Puis les philosophes du XVIIIe siècle ont commencé à saper cette vérité, jusqu'à la remise en cause radicale lors de la Révolution française, où les églises ont été profanées pour devenir les temples de la raison. L'inspiration franc-maçonne de la Révolution française a été bien étayée par les historiens, et on en a vu les fruits. On s'est débarrassé de Dieu en mettant à la place une sorte de grand horloger dépourvu d'amour. On a tué le roi de droit divin pour établir une république née dans le sang du génocide vendéen et de l'usage généralisé de la guillotine. On a cherché à couper l'homme de toute transcendance en prétendant faire de lui le seul législateur de sa vie. Il n'était désormais plus fils de Dieu, ni à son image, mais seulement un citoyen, un être de raison. Ni maître, ni Dieu, c'est le nom d'une loge maçonnique actuelle qui reflète bien l'esprit révolutionnaire d'alors. Un régime qui rejette Dieu ne peut que produire des fruits de violence et de mort. Et la Révolution française en a été un bel exemple, puisqu'elle s'est déployée sous la forme du chaos social et de la terreur. Cette attaque contre la dignité de l'homme, qu'on peut qualifier de démoniaque, n'était que le prélude à un rabaissement de l'homme encore plus radical, avec la théorie de l'évolution de Darwin au XIXe siècle. Celui-ci pensa que les espèces évoluaient par la sélection naturelle, un mécanisme où les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent davantage et transmettent leurs traits avantageux à leur descendance. Seulement Darwin a confondu espèces et variétés. Il y a une seule espèce de chien, par exemple, mais une multitude de races, des bergers allemands, des bulldogs, des caniches, etc. Les races peuvent évoluer par croisement, par exemple, par adaptation aussi à l'environnement. Mais l'espèce, elle, demeure. Et il ne peut y avoir croisement entre espèces. Les chiens ne s'accouplent pas avec les chevaux ou les chats. Ça ne marche pas. De même pour l'espèce humaine, il y a des races différentes qui peuvent se croiser. Mais il y a une seule espèce humaine qui ne saurait s'hybrider ni avec des animaux ni avec quoi que ce soit d'autre. Et la génétique le confirme aujourd'hui. Mais la Genèse nous l'avait déjà dit. Dieu a créé chaque être dès le commencement, selon son espèce. On a cherché pendant des années à trouver le chaînon manquant dans l'évolution, entre l'homme et le singe. Mais cette recherche a été abandonnée dans les années 90, car de fait, ce chaînon manquant, on ne l'a jamais trouvé, et on ne le trouvera jamais, parce qu'il n'y a jamais eu, à un moment donné de l'histoire, une espèce hybride homme-animal. D'ailleurs, depuis des millénaires, le singe côtoie l'homme, mais il ne s'est jamais mis à parler. Et pour cause, il n'a pas reçu cette âme spirituelle qui est le propre de l'espèce humaine. La théorie de l'évolution, dont la conséquence a été de penser qu'il n'y a pas une différence de nature mais seulement de degré entre l'homme et l'animal, autrement dit que l'homme ne serait que le fruit d'une évolution hasardeuse et naturelle du singe, cette théorie donc ne tient pas d'un point de vue métaphysique. En effet, le plus ne peut venir du moins. La vie ne peut jaillir de la matière inerte, de ce qui est minéral. Ce n'est pas possible. La vie vient de la vie, et donc elle ne peut venir que de celui qui possède la vie en lui-même, Dieu. De même, l'esprit ne peut jaillir ni de la matière inerte, ni de la vie simplement organique. Il ne peut être donné, l'esprit, que par celui qui est esprit, autrement dit par Dieu. Pour le dire autrement, la pierre n'a pu engendrer le vivant, et le vivant lui-même, par exemple le singe, n'a pu engendrer l'homme spirituel. L'esprit ne pouvait être créé que par quelque chose qui était déjà esprit. C'est pourquoi je vous dis qu'en bonne métaphysique, le plus ne peut venir du moins. Cette théorie de l'évolution s'est tout de même répandue et elle s'est avérée bien utile pour abattre un peu plus la religion et ôter toute noblesse à l'homme. La révolution avait fait que l'homme, image de Dieu, devienne un simple être raisonnable. Désormais, cet être raisonnable devenait un animal évolué, non plus fils du ciel, mais uniquement produit par la terre, comme les autres êtres vivants. En abolissant la différence de nature entre l'homme et l'animal, on ouvrait la voie aux dérives actuelles de l'antispécisme, cette doctrine du philosophe Peter Singer qui rejette toute discrimination fondée sur l'espèce, ce qui aboutit à un égal traitement des hommes, des animaux et des végétaux. Un journal suisse avait ainsi sorti un article il y a quelques années dont le titre était « Les droits de la salade ». Eh bien oui, si l'homme, image de Dieu, n'est plus le roi de la création, mais un vivant parmi d'autres, pourquoi la salade, l'arbre, la punaise de lit n'auraient pas autant de droits que lui ? Le philosophe Paul Ricoeur a parlé de Darwin comme d'un maître du soupçon, parce qu'il a jeté le soupçon sur la noblesse de l'homme précisément. Mais pas seulement lui, Freud et Nietzsche aussi. Nietzsche, en proclamant la mort de Dieu, a privé l'homme de ses repères moraux traditionnels, le bien, le mal, la vérité, l'illusion. Pour lui, l'homme n'est pas un être rationnel, mais il est d'abord un être de désir, de pulsion et de domination. Et ce qui fait sa grandeur, c'est sa volonté de puissance, qui l'achemine vers l'exaltation de soi et le dépassement de toute entrave morale. Il s'agit de vivre par-delà le bien et le mal. L'homme n'est finalement qu'un pont vers le surhomme, une étape transitoire dans l'évolution. Nietzsche annonçait ainsi, d'une certaine façon, le transhumanisme actuel. Pour ce qui est de Freud, lui, il a jeté le soupçon sur l'homme en disant que l'homme était plus guidé par son inconscient, c'est-à-dire ses pulsions, ses désirs, que par sa raison. Autrement dit, l'homme ne serait pas maître chez lui. Il serait le jouet de ses désirs refoulés, davantage mu par sa sexualité que par sa conscience et sa raison. Que l'homme ne soit pas mu que par sa raison, oui, sans aucun doute. Mais justement, ce qui fait sa grandeur, c'est qu'il est capable de dominer ses passions, de suivre la voie de l'esprit et non celle de ses pulsions. Aujourd'hui, la déconstruction se poursuit dans le transgenrisme, qui est une forme de négation du réel, de rejet de la distinction homme-femme et d'affirmation d'une fiction. Chacun pourrait choisir son genre selon le désir du moment, être homme, femme, binaire, non-binaire, queer, etc. Voyez, toutes les limites qui structurent l'humanité depuis la nuit des temps sont comme abolies, et on le voit d'une manière particulière dans la sexualité. On encense l'homosexualité. On a tous les jours des scandales de pédophilie ou d'inceste qui s'étalent dans nos médias. On sexualise les enfants dans les écoles par les programmes de soi-disant éducation sexuelle, qui ne sont rien d'autre qu'une forme d'initiation à une sexualité adulte et déviante. ceci manifestant aussi que la distinction enfant et adulte est en train de tomber. À cela s'ajoutent les transgressions concernant la vie. Si l'homme n'est qu'un animal comme un autre, pourquoi s'interdire de le tuer par l'avortement ou l'euthanasie? La dignité consistant désormais dans le choix de la mort et non plus de la vie. Le prince de ce monde, comme l'appelait Jésus en parlant de Satan, s'avère être très efficace dans son œuvre de déconstruction et de retour au chaos. Il fait tomber les séparations et les limites fondatrices. Mais il n'a pas fini encore. Aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, vient rajouter une blessure à l'homme, celle de lui faire croire que la machine le surpasse et qu'il n'est plus bon qu'à être mis à la casse pour obsolescence avérée, à moins d'accepter une nouvelle hybridation, cette fois avec les puces et circuits électroniques dans une interface homme-ordinateur. Pour les transhumanistes, cela n'est que la continuité de l'évolution darwinienne. De l'animal à l'homme par une pseudo-hybridation homme-singe, puis de l'homme à la machine, à l'IA, par une nouvelle pseudo-hybridation cerveau-machine. Et ceci dans une visée post-humaine, où les hommes refusant l'augmentation technique ne seront plus utiles et devront disparaître, dépassés par des IA devenus des dieux. Ceux qui prônent le transhumanisme et l'intelligence artificielle pensent que nous sommes arrivés au temps de la surhumanité. Et c'est bien là le mensonge du diable, car de fait, c'est plutôt le règne d'une infra-humanité qui commence. La question essentielle aujourd'hui est donc bien la question anthropologique. Il s'agit de nous souvenir de ce qu'est l'homme dans le dessein d'amour de Dieu. Il s'agit de nous souvenir de notre dignité d'enfant de Dieu, appelé non à la technicisation de notre être, mais à la divinisation de notre être par le Saint-Esprit. Et alors nous pourrons résister à toutes ces séductions mortifères. Nous pourrons demeurer en Christ, demeurer dans son amour et finalement demeurer pleinement humain à l'image et ressemblance de Dieu.